Sur ce sentiment inconnu, dont l'ennui, la douceur m'obsède, j'hésite à apposer le nom,
désespoir.
Le beau nom grave de tristesse.
Vous vous rendez compte de votre état ?
La mélancolie.
Vous avez envie de guérir ou vous n'avez pas envie ?
Remède.
Ce que je veux avant tout, c'est que les gens se soignent.
À la mélancolie. Eva Bester.
Appelez-moi docteur.
Bonjour à tous et bienvenue dans cette émission préparée par Laure Grand Besançon, réalisée par Eliane Girard et mise en musique par Muriel Pérez. Aujourd'hui à la technique, Nicolas Delmas. Ce matin, pas de réelle gourmandise, mais une anecdote. Pendant la Première Guerre mondiale, des psychiatres anglais s'interrogèrent sur les psychoses développées par les soldats traumatisés au retour du front. Lorsque ces derniers étaient victimes de liaisons cérébrales ou d'atteintes physiologiques, le diagnostic des médecins relevait de l'élémentaire. Mais à une époque où les maladies nerveuses étaient encore mal connues, on appréhendait difficilement les hallucinations ou psychoses sans lien avec l'intégrité physique. La bureaucratie du catalogue scientifique exigeait des appellations concrètes. Pour cela, il fallait mieux étudier les psychés accidentés. Cela donna lieu à une grande avancée psychiatrique par la reconnaissance de ce qu'on nomme aujourd'hui stress post-traumatique. Non seulement on inventa le terme « shell shock », obusite en français, pour les hommes détériorés nerveusement par la violence des bombardements, mais les cas qui échappaient à l'entendement furent diagnostiqués « not yet diagnosed », pas encore diagnostiqués, ou « God only knows », Dieu seul le sait. En somme, le doute comme condition du progrès. Si cela vous intéresse, je vous recommande « Histoire et trauma » des psychanalystes Françoise Davoine et Jean-Max Godillère. Certes, j'ouvre avec une matière noire, mais c'est l'endroit où l'on perçoit le mieux les éclats. Surnommé « French enfant terrible » par le journal The Guardian, notre apothicaire de l'âme découvre la danse suite à une vexation tandis qu'il aspirait au métier d'acteur. Faute d'apprendre ses textes, on le renvoie du cours de théâtre qu'il suit à l'Institut français de Rabat au Maroc. Vexé, il décide de rester dans la classe où a lieu un cours de danse. Il s'empare de la discipline, l'admire, l'exécute, la met en scène. La danse, assure le chorégraphe, n'appartient pas qu'aux personnes douées. Il fera se mouvoir des objets, des vieillards, des handicapés mentaux, physiques, des danseurs de ballet et véritablement toutes sortes d'amateurs. Influencé par Barthes, Lévi-Strauss ou Foucault, il donne à voir la fragilité, la vulnérabilité, parfois la chute, en somme, les tendances naturelles de l'homme. Bonjour Jérôme Bell.
Bonjour.
Quel rapport entretenez-vous avec la mélancolie ?
Distant.
Depuis toujours ?
Le plus possible. Pas beaucoup de plaisir à cette émotion. Non, je la fuis. Je fais tout pour ne pas la vivre.
Parfois, elle vous rattrape ?
Ah oui, hélas, oui. Oui. Ce que j'appelle, moi, une dépression.
Ah oui.
Oui, oui. Donc, c'est pas cette mélancolie comme ça qui se glisse un peu, qui n'est pas si. C'est dangereuse, mais moi, c'est plutôt assez rassemblé et intense comme ça. Et là, bon, voilà, là, je peux pas. C'est une autre intensité, quoi.
Vous la sentez qui vous guette ou il arrive qu'elle vous laisse tranquille ?
Non. C'est des périodes précises de ma vie par rapport à mon inconscient, hein, en général.
On va y revenir à votre inconscient. J'annonce le sommaire aux auditeurs, ce n'est pas une menace. Dans quelques instants, Jérôme Bell, vous convoquerez un autoportrait de Jean-Luc Godard, la psychanalyse, l'art du yoga, des problèmes chorégraphiques, Samuel Beckett, John Cage, Rihanna, Marlène Dietrich et le sculpteur américain Karl André, juste après le titre « Volver » de Benjamin Biolay.
Je me souviens du goût des gens, de la torpeur et des tourments. Et à pas 5 heures, j'avais 15 ans, mais plus grand chose de l'enfant. Je me rappelle d'un torrent, d'un homme singe et d'un cadran, de cette douleur entre les dents, de la douceur d'aucun printemps avant. Faire tout comme les riches, tout en les maudissant au fond. Je me rappelle de quelques friches, de mes vieux copains vagabonds. Il y a pas quatre heures, j'avais 20 piges, déjà les soucis d'un vieux con. Aujourd'hui encore je m'entiche de quelques arbres juste pour le tronc. La vie n'aime pas qu'on la regarde dans les yeux. Elle peut te faire croire par mégarde qu'elle est deux, mais elle n'est qu'une, sans rancœur ni rancune. Je me souviens de leurs amants, cette tête de con, cette tête de gland. Il y a trois quarts d'heure, j'avais 30 ans, le cul d'un orang-outan. Je me rappelle de pas grand-chose, un coin de ciel qui vire au mauve. J'étais déjà bien peu de choses, comme bien des rebelles sans cause. Il y a pas de plomb, j'avais 40, la vie était déjà moins marrante. Tangoyaux, couleur amarante, chaque été en douce pente. La vie n'aime pas qu'on la regarde dans les yeux. Elle peut te faire croire par mégarde qu'elle est deux, mais elle n'est qu'une, sans rancœur ni rancune aucune. Petite combine, faux débrouillard. Je vois mon avenir de vieillard comme un train toujours en retard. Y a pas 5 heures, j'avais 15 ans. Déjà la rage, c'était déjà les jambes. Déjà les yeux rougis de sang. Déjà le nez au firmament. Le mort aux dents. Y a quelques mois, j'avais 15 ans. Mais j'aimais pas.
Remède à la mélancolie sur France Inter en compagnie de Jérôme Bell.
Lorsqu'on s'exprime, on dit toujours plus qu'on ne veut, puisqu'on croit exprimer l'individuel et qu'on dit l'universel. J'ai froid, c'est moi qui dis j'ai froid, mais ce n'est pas moi que l'on entend. J'ai disparu ces deux moments de ma parole. Aussitôt que je l'ai prononcé, il ne reste plus de moi que l'homme qui a froid. Et cet homme appartient à tous.
...1995, le film JLG par JLG, autoportrait de décembre, réalisé bien sûr par Jean-Luc Godard pour le centenaire de la Gaumont. Ça commence par des pièces vides et puis une photo de jeunesse de Jean-Luc Godard qui dit en voix off, d'une voix de vieillard qui raconte ses mémoires, « J'ai commencé par le deuil ». Ça débute de façon sépulcrale, mais ça ne vous démoralise pas apparemment, Jérôme Bell.
Non, effectivement, il y a chez Godard depuis quelques années, enfin maintenant, une grande mélancolie, hein, et qui me réjouit pas beaucoup, je veux dire. Je vois ces artistes géniaux comme ça, qui sont des figures d'identification pour moi très importantes, qui m'ont construit en tant qu'artiste, et je vois. Là, c'est criant dans l'extrait que vous venez de passer. C'est d'outre-tombe, quoi. Il parle comme ça, dans cette, effectivement, mélancolie infinie. Et moi, je me demande comment, par exemple, vieillir et ne pas tomber là-dedans. Parce que je vois beaucoup de gens plus âgés que moi. Moi, j'ai passé 50 ans et... Il y a cette espèce de nouvelle situation, voilà, où on rentre dans la vieillesse, il faut le dire, et qui rebat les cartes de savoir comment vivre. Et j'aimerais pas tomber dans cette chose de rapport au passé et ce sentiment que le présent est vain et J'aimerais bien garder. Alors qu'il y a quelques artistes, heureusement, comme d'autres qui vont peut-être apparaître dans l'émission, comme
sans
John
doute.
Cage ou tout ça, qui sont, jusqu'à la fin, on garde, on dirait des gamins de 15 ans, quoi.
Mais alors, vous avez choisi ce film plutôt comme un garde-fou, plutôt que comme un remède à la mélancolie ?
J'ai choisi ce film, j'étais de manière très sentimentale, j'ai pas beaucoup réfléchi, parce que quand vous m'avez demandé toutes ces choses-là, j'étais en plein première d'une pièce à l'Opéra de Lyon, donc vraiment je savais pas très bien quoi faire. J'ai pris les choses qui me venaient comme ça, sans trop réfléchir, c'est pour ça que j'ai utilisé le mot sentimental, des choses qui sont très très importantes pour moi, que j'aime profondément, et j'aime, je crois que s'il y a un père artistique, c'est Jean-Luc Godard pour moi.
Hors antenne, vous me disiez, il est à l'opposé de moi, et puis moi je vous disais oui, mais malgré tout, Jérôme Bell, il y a une vraie cohérence avec les remèdes suivants. Alors, pour les auditeurs qui n'auraient pas vu ce film, on voit Godard qui marche seul sur les rives du lac Léman, on le voit écrire, balbutier, on le voit être dans sa bibliothèque, on voit des nourrices affriolantes avec des scènes assez comiques, car il y a du burlesque aussi dans tout ce lyrisme et cette atmosphère sépulcrale. Et puis il y a une bande-son assez particulière. Ouais. On entend des oiseaux, des bruits de téléphone, de la musique classique, des dialogues de films, il y a des fragments, des collages.
Ah mais ça c'est son art le plus incroyable, c'est comment, et même la radio ça fonctionne. Une des opérations qu'il a fait, il a compris que le cinéma c'était son et image et que l'image n'était pas nécessairement liée au son et que donc effectivement au cinéma c'est l'art du montage. Il a dissocié les deux et il a fait des sortes de poèmes sonores et visuels qui sont, moi pour moi, enfin qui sont inépuisables, c'est-à-dire qu'on peut regarder ces films continuellement. C'est comme Baudelaire, c'est comme Mallarmé, c'est des choses qui garderont toujours un mystère et qui pourront être vues et revues infiniment, il me semble.
Quelque chose d'assez frappant, c'est aussi que parfois il y a des moments d'un lyrisme intense où on se dit bon, il est en train de se regarder et de faire quelque chose avec un narcissisme assez délicieux. Et juste après...
Bah, ça s'appelle autoportrait, celui-là. Donc,
oui, bien sûr. Voilà, il casse cette chose en, par exemple, mettant une femme dans la neige, dans la forêt, qui commence à déclamer du latin. Mmh. C'est très grandiloquent. Mmh. Et puis, il arrive avec un bonnet ridicule. Mmh. Il la regarde. On s'attend à ce que ce soit lyrique. Et il la regarde et il dit oh, « Mais c'est mon manteau !» Il y a des moments comme ça.
Ah bah oui, bien sûr. Ouais. Non, c'est de la liberté, quoi. C'est-à-dire la scène que vous venez de raconter, elle est possible que chez Godard. Il se permet tout, travaille par association, on peut dire. Ce qui me fascine, ce que moi j'arrive pas à faire. Moi, je construis avec un début, un milieu, une fin, et c'est pour ça que je suis fasciné par ces films, parce que il y a cette pour moi, c'est vraiment cette liberté. Quoi. Je ne peux pas dire autre chose. On dirait que tout est possible. Quoi. Et en tant que spectateur, on est amené dans des endroits absolument inouïs. Quoi. Vous ne pouvez pas imaginer avant que telle chose pouvait être... Oui, quoi, ouais, c'est ce que vous avez raconté. C'est très bien.
C'est un peu ce que vous faites aussi.
Une des plus belles choses du ballet classique, c'est le passage dans le lac des Cygnes où les 32 danseuses du corps de ballet dansent ensemble. Mais dans cette partie, il y a de longs moments immobiles, les pauses, où nous devenons un décor humain afin de mettre en valeur les étoiles. Et pour nous, c'est la chose la plus horrible à faire. Moi, par exemple, j'ai envie de hurler ou de quitter la scène.
On entend un extrait de votre pièce de 2004, Véronique Doisneau, sur une danseuse du corps de ballet de l'Opéra de Paris à la veille de sa retraite. Dans vos spectacles, Jérôme Bell, les danseurs se racontent. Comme première idée consolatoire, vous avez choisi la psychanalyse. Et je crois que vous avez participé à une rencontre autour des rapports entre danse et psychanalyse en juin dernier. Première question, quels sont ces rapports selon vous ?
Je sais pas. Enfin, moi, ce que je sais après 20 ans de travail en tant que chorégraphe, J'essaie de savoir pourquoi je suis coréen. Ah oui, parce que je fais des pièces, mais aussi j'essaie de savoir pourquoi je les fais. Pourquoi il y a cette nécessité, ces idées qui viennent, ça me semble mystérieux. Là où j'en suis arrivé, c'est qu'il y a une force inconsciente qui va me permettre de mettre en forme, moi, dans mon cas, c'est de la scène de théâtre, c'est dans ce contexte-là qui vont permettre pour moi d'exprimer certaines choses. Et je pense que la nature de chaque pièce, elle vient de mon inconscient. Enfin, c'est ce que je vois pas. C'est là où j'en suis. Hein. Je peux pas le prouver ni rien, mais bon, c'est là où c'est ma spéculation actuelle.
Vous avez fait une analyse?
Moi, oui. Bien sûr, enfin bien sûr, parce que j'étais curieux et que j'ai beaucoup aimé ça. j'ai adoré ça. Je trouve, voilà, parce que c'est une. Moi, je conseille à tout le monde, hein, tous les amis, je dis allez-y. Après, vous pouvez arrêter. C'est pas, vous n'êtes pas mariés. Mais je trouve que c'est une expérience de l'existence absolument unique et qu'on ne peut faire que dans ce contexte-là. Elle ne peut pas se faire ailleurs. Et donc, moi, je suis toujours pour les nouvelles expériences. Hein. Je me situe dans la danse contemporaine, dans le théâtre expérimental. C'est-à-dire que j'essaie de faire des choses qu'on n'a pas fait avant. Quoi. C'est un peu mon credo.
Alors justement, vous avez aussi indiqué, Jérôme Bell, l'art. Alors l'art en tant que créateur, évidemment, mais aussi en tant que spectateur. Vous avez d'ailleurs fait des spectacles où vous racontez l'expérience du spectateur.
Ah oui, j'ai fait ça aussi, mais c'était complètement raté. Ouais. c'était un spectacle où je racontais les spectacles que j'avais vus.
Bon, oui.
Voilà, ça n'a pas du tout marché. Mais c'est une très bonne idée. Et bon, des fois, il n'y a que des bonnes idées, très mauvais spectacles. Des fois, des mauvaises idées, des bons spectacles. Bon.
Est-ce que vous rejoignez Nietzsche, c'est-à-dire l'art comme protection contre la vérité, qui est trop douloureuse?
Ah oui, non, le théâtre, c'est précisément ce qui se passe. Le théâtre est un endroit où on va pouvoir aller voir les choses les plus horribles de l'existence. Je fais référence là au théâtre occidental et à la naissance du théâtre occidental, qui est la tragédie grecque, il y a 2500 ans. Et effectivement, c'est un endroit où on va pouvoir vivre des choses affreuses, donc la tragédie, tout en sachant que c'est faux. Puisqu'après, on va applaudir, les acteurs qui sont morts vont se relever, vont venir saluer. Et c'est pour ça qu'on accepte de voir ces choses-là. Et c'est pour ça, mais bon, ça c'est l'histoire de toute la représentation. La représentation aide les êtres humains à pouvoir comprendre des choses terrifiantes sans avoir à les subir.
Côté de l'art et de la psychanalyse, vous nous avez parlé de yoga. Et dans l'ouvrage « Anthropologie des corps en transe » dirigé par Sébastien Beau, on apprend qu'avant de danser un solo de la chorégraphe Myriam Gourfink, vous faisiez presque 2 heures de respiration dirigée et de lenteur. Par exemple, vous retournez sur le ventre, prenez 15 minutes. Ça vous mettait dans un état second avant la scène. Alors, je voudrais savoir quel type de yoga était-ce et est-ce que c'est elle qui vous a initié?
Oui, c'est ça. Moi, j'en avais fait un petit peu comme ça. Quand j'avais arrêté de danser, j'étais passé au yoga en me disant, bon, il faut quand même que je pratique un peu mon corps, enfin, que je le fasse travailler de manière plus douce, évidemment. Et j'avais vu ce spectacle de cette chorégraphe, Myriam Gourfink, et je lui avais demandé j'avais commandé un solo pour moi. Et effectivement, elle travaillait à partir du yoga. Elle est une grande maîtresse du yoga. Et elle fait du yoga tibétain. On bouge pratiquement pas, quoi. C'est que des images mentales. À l'intérieur des organes, même elle parle quand elle vous fait faire le yoga, elle parle de qu'il faut que vous pensiez à la moelle dans vos os et tout ça, c'est extrêmement particulier et très profond. Et moi, depuis quelques années, enfin exactement depuis 2 ans, je pratique le yoga tous les matins.
Le yoga tibétain, toujours.
Non, moi je fais du yoga, sur internet parce que
classique indien.
Ouais, ça dépend. Moi, j'aime beaucoup le hatha yoga, celui où on en fait le moins possible. On reste dans des postures. je suis quand même très fainéant. Et surtout, moi, ce qui est très important, surtout, c'est d'arrêter ma pensée, qui est la chose la plus réjouissante, c'est de me calmer, puisque je fais beaucoup marcher mon cerveau, quoi. Je retourne les choses dans tous les sens, je me pose plein de questions tout le temps, et au bout d'un certain moment, c'est un peu fatigant. Et là, je fais ça une demi-heure, ça dépend le temps que j'ai, et je fais ça sur Internet. Il y a plein de cours sur Internet, et je les fais quand je veux. Et puis il y a les cours, alors il y a même des cours quand vous avez trop bu la veille.
Pour la gueule de bois. Alors,
quand vous n'avez pas dormi, quand vous avez envie de... Bon, bref, et on choisit comme ça, et ça a changé ma vie, quoi. Hein, ça a changé mon existence. Mes collaborateurs voient tout de suite si j'ai pas pris mon cours, par exemple. Si je hurle dans la première réunion de la journée ou la répétition, t'as pas pris ton cours de yoga. Alors si il me dit bon voilà, il y a tel problème, je sais pas où, à Bucarest, dans le théâtre. Et si je dis ah bon, alors quelle est la solution? Ça veut dire que j'ai pris mon cours de yoga.
Bon, on va essayer d'en faire pendant les quelques minutes qui nous séparent du reste de l'émission. Dans un instant, on parlera de ratage, de problèmes et de rien.
Ah, bien sûr.
Juste après, un morceau réunissant le groupe australien Parcells et les Daft Punk, le titre Overnight dans la playlist France Inter. À la mélancolie sur France Inter en compagnie du chorégraphe Jérôme Bell et d'un fantôme à l'absurde lucide, l'auteur de votre citation Becky, le dramaturge irlandais Samuel Beckett. Et la fameuse citation, c'est cet extrait de Cap au pire paru en 1982 essayer encore, rater mieux. L'échec ne vous effraie pas?
Bah, si, mais il faut l'assumer, il faut le... Il y a une telle... On vit dans une... je sais pas, une société à un moment historique où... on nous fait croire qu'il y a que la réussite qui est valable, et je pense que c'est une des plus grandes...
Des
grands simulacres, supercherie. J'ai l'impression qu'il a disparu des représentations, en fait. Hein. Moi, je travaille sur les représentations. Dans ce monde-là, il me semble qu'il est oublié. Mais dans la réalité, tout le monde n'arrête pas de se le coltiner, quoi. Et en danse, si vous voulez, il y a un lourd passif de la perfection, comme dit, voilà, du ballet, soi-disant, l'excellence, toutes ces idioties, mais c'est des idioties parce qu'il y a absolument pas il y a autant de réussite que d'échecs, hein. Cependant, ce champ-là, le champ de la danse, du fait de son histoire, est un peu aliéné par ça. Donc moi, là, j'ai effectivement depuis quelques années travaillé sur le fait de pas réussir. Et puis quand j'ai lu cette chose de Beckett, j'ai trouvé ça encore plus merveilleux puisqu'il dit rater mieux. Ah oui, alors allons-y et voyons qu'est-ce qui peut être intéressant dans le ratage de cette expérience-là. Qu'est-ce qu'elle est?
C'est le moment sans doute le plus positif du paragraphe dans lequel cette citation se trouve, parce que ensuite, après, il parle de vomir jusqu'à la fin, de dégoût. C'est un cri de désespoir absolu.
Ouais.
Mais on pouvait lui faire confiance en soutien, Beckett, pour le ratage. Il y a cette notion de chute sur laquelle vous travaillez, Jérôme Bell, au sens figuré et littéral dans vos spectacles. Je pense par exemple au spectacle Tombe. Sur votre site, il est écrit « Le titre de la création Tombe, annoncé sans texte descriptif, laissait entrevoir un travail sur la chute, sur l'échec à danser, les moyens de le mettre en scène dans ce sanctuaire de la virtuosité qu'est l'Opéra de Paris. » En fait, la danse, c'est comme une métaphore de la vie ramassée, c'est-à-dire on va essayer de s'écrouler le plus aériennement, le mieux et le plus tard possible, puisqu'en fait, de toute façon, on va s'écrouler.
Oui.
On va rater, on va tomber, on va chuter, on va se dégrader, on va mourir.
Oui, et la danse, encore comment elle est montrée, et encore cette espèce d'éternelle jeunesse, de jeunes gens bien faits, tout ça. Mais c'est pas. Moi, j'aimerais bien qu'elle soit une métaphore de la vie. Je crois qu'elle l'est pas. Elle, y a plein de choses qu'elle représente pas encore, qu'elle s'interdit de représenter. Et c'est pour ça que moi,
dans vos spectacles, je parlais.
Moi, je vous assure qu'il y a des gens qui sont pas contents de voir ça, de voir. Quand Véronique Doineau, dans l'extrait que vous avez passé juste avant, elle dit c'est un des plus beaux moments du ballet classique, mais pour moi c'est une chose horrible à faire. Y a un prix à ça, et moi je veux le montrer, ce prix-là, et je veux surtout montrer que la danse n'appartient pas qu'à une minorité, à des gens virtuoses, faits pour ça, doués, taratata. La danse, le vrai intérêt de la danse, c'est ce qu'elle exprime, c'est pas sa forme. Danser bien, moi je m'en fous. Il y a des gens qui dansent très mal et qui disent beaucoup plus de choses. Ça, c'est une espèce de position qualitative qui en tout cas, moi, qui m'intéresse pas. Enfin, qui m'intéresse pas. Si, elle peut m'intéresser, c'est une partie. Mais il me semble qu'elle est trop surévaluée.
Procédez la distribution des rôles. Commencez les répétitions. Résoudre les problèmes de mise en scène. Régler soigneusement les entrées et les sorties. Faire la répétition ou la générale. Donner la première représentation. Aboutir selon un succès, un triomphe, ou au contraire, un échec, un four.
Merci Jérôme Bell de rappeler que tout est labeur, transpiration, effort, qu'on rate souvent et que c'est normal.
Oui, et que c'est bien, que c'est pas très grave, on fera mieux la prochaine fois.
C'est le tout début de JLG par JLG qu'on entend pour illustrer l'activité qui vous grise. Et ça va avec ce qu'on vient de raconter puisqu'il s'agit de solutionner vos problèmes théâtro-chorégraphiques. Devant un problème, la probabilité d'excitation est toujours supérieure à celle de l'abattement.
Jusqu'à ce que je le résolve. L'abattement arrive quand je n'arrive plus à le penser. Quand je suis coincé et que je vois, et vraiment j'ai une image mais terrible dans ma tête, je vois un mur. C'est-à-dire que je suis acculé littéralement à un mur, je n'arrive pas à déplacer quoi que ce soit pour continuer la pensée et si au moins je suis en mouvement, à trouver la solution. Et voilà, donc ça, c'est les... Quand je trouve pas de solution, bah, je fais pas les spectacles. Moi, mais disons que...
Ah, c'est radical.
Ah oui, moi, je... Oui, j'annule beaucoup. Juste avant la première, je peux dire, non, je joue pas, j'ai pas trouvé. Ça pose beaucoup de problèmes avec certains spectateurs et les producteurs, mais non, j'hésite pas.
Vous êtes un perfectionniste malgré votre goût pour l'imperfection.
Non,
que
mais
vous
pas
montrez.
Perfection, c'est juste une ambition. C'est-à-dire, si je vais pas convoquer des centaines de personnes, si j'ai pas ou problématisé de manière assez claire, ou dans le meilleur des cas trouvé une solution, non, il faut arrêter, quoi. Il faut pas se mentir. Mais non, moi je suis ambitieux artistiquement et aussi j'ai une très haute idée de ce que c'est que l'art.
Essayons encore. Credo in Us ou in US, selon les visions composées par John Cage pour une chorégraphie de Merce Cunningham et Gene Erdman en hommage à votre texte antisplinétique, Jérôme Bell, signé du compositeur américain John Cage, conférence sur rien, donnée en 1950 à l'Artists Club à New York. Alors Cage, expérimental, minimaliste, comme Beckett, comme un certain Jérôme Bell. Lui se présentait simultanément comme un compositeur, un plasticien, un théoricien, un poète, plus tard un mycologue, donc un spécialiste des champignons. Comment avez-vous découvert cette conférence sur rien ?
Alors, ça c'est tout un groupe d'artistes que j'ai rencontré, enfin, dont j'ai entendu parler par la danse, c'est-à-dire que moi évidemment, en tant que danseur, j'avais entendu parler d'un chorégraphe américain qui s'appelait Merce Cunningham. Et de là, évidemment, comme j'avais beaucoup aimé les spectacles, alors que je me rappelle quand je l'avais vu la première fois, la moitié de la salle hurlait, quitter la salle, moi j'avais trouvé ça très bien. J'avais 18 ans, ça m'avait semblé tout à fait acceptable. Et Merce Cunningham à New York était... faisait partie d'un groupe d'artistes absolument fantastiques, dont John Cage, qui était un musicien, un compositeur, et des gens comme Robert Rauschenberg, Jasper Johns, plein des artistes plastiques, des peintres plus précisément. Et donc, moi, j'ai commencé à m'intéresser, et c'est grâce à ça que je me suis intéressé aux arts visuels, par exemple, et à la musique, grâce à ces relations, à ces affinités électives, comme ça. Et John Cage a été une révélation.
Alors, la conférence sur rien, c'est 48 unités contenant chacune 48 mesures, 4 mesures sur chaque ligne, et le texte est imprimé en 4 colonnes pour faciliter une lecture rythmique. Dedans, c'est un peu l'éloge de la non-explication. Il n'y a rien à comprendre, c'est là, et voilà tout. Et puis, il y a aussi beaucoup d'humour, beaucoup de dérision de la part de John Cage, qui dit des choses comme « Après plusieurs années de travail solitaire, je commençais à me sentir seul ». Ou il y a cette anecdote sur Eric Satie qui disait « Toute ma jeunesse, on me disait, vous verrez quand vous aurez 50 ans. J'ai 50 ans et je n'ai rien vu. » Et vous, Jérôme Bell, vous avez choisi de nous lire le début. C'est un peu une performance car il y a un rythme à respecter pour le lire.
Oui, parce que c'est une composition musicale. Donc ça s'appelle « Conférence sur rien », qui est une véritable conférence qu'il a fait à New York pour d'autres artistes dans un club d'artistes. Donc je vais lire le début. Et alors, c'est une composition, donc il faut faire attention. Alors, j'y vais. « Conférence sur rien ». Je suis ici et il n'y a rien à dire. Si parmi vous, il y en a qui veulent arriver quelque part, qu'ils partent à tout moment. Ce dont nous avons besoin, c'est du silence. Mais ce dont le silence a besoin, c'est que je continue de parler.
Conférence sur rien de John Cage, lu par Jérôme Bell. Une question, Jérôme Bell, pourquoi aimez-vous tant le rien ?
Parce qu'il n'y en a pas. Oh là là, je l'ai sorti comme ça. C'est parce que ça n'existe pas. Ça n'existe pas, il y a toujours quelque chose. C'est-à-dire que qu'est-ce qui reste si on s'arrête de parler tous les deux ? Si on se met sous la table pour pas se voir, là, comme ça, et qu'on reste comme ça, il y aura la pensée, il y aura ma pensée que vous êtes là aussi caché dessous, qu'on essaie de tout réduire, mais non, on est en vie.
C'est terrible ce que vous racontez.
Non, c'est pas terrible. C'est de tout réduire pour juste sentir qu'on est en vie. Quand John Cage, il a fait aussi une autre pièce très très importante qui s'appelle 4 minutes 33. Et en fait, c'est un pianiste qui se dirige vers le piano comme tout pianiste qui va jouer un morceau. Et il ferme, à la place d'ouvrir le clavier, il le ferme et il regarde un chronomètre et il attend 4 minutes 33 et à la fin, il l'ouvre et la pièce est terminée. Donc, il a produit du silence. Et ça a été évidemment une œuvre qui était à la limite de la musique, puisque c'était le silence. Mais surtout, ce qui s'est passé, c'est que... Donc, on s'est dit, tiens, John Cage fait écouter le silence, certes, mais surtout, on s'est aperçu qu'il n'y avait pas de silence. Parce que, évidemment, dans la salle...
Les gens toussaient.
Les gens hurlaient, les premières. Les gens se disaient, qu'est-ce que c'est que ça? Donc, et après, bon, voilà, les années ont passé, maintenant les gens... Moi, je l'ai entendu quelques fois. Et non, il y a toujours quelqu'un qui pouffe, ou quelqu'un qui même peut pleurer tellement c'est émouvant de d'avoir cet auditorium plongé dans le silence parce que tout le monde comprend et qui vont produire le silence. Donc c'est comment toucher à ce qui est irréductible et qui est d'être vivant.
Bon, alors je vous propose d'écouter quelque chose de plus accessible, de plus populaire. C'est votre premier antidote musical, Jérôme Bell. Il s'agit de Rihanna Diamond.
Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. Fine light in the beautiful sea. I chose to be happy. You and I, we're like diamonds in the sky. You're a shooting star I see. A vision of ecstasy. When you hold me, I'm alive. We're like diamonds in the sky.
Beautiful like diamonds in the sky. I too like a diamond. So shine bright tonight, you and I. We're beautiful like diamonds in the sky. Eye to eye, so alive. We're beautiful like diamonds in the sky. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. Oh, yeah. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.
Remède à la mélancolie sur France Inter avec le chorégraphe Jérôme Bell qui remuait presque dans une prière intérieure sur cette chanson de Diamonds de Rihanna. Très brièvement, qu'est-ce qu'elle vous évoque cette chanson ?
Ah ben justement, elle m'évoque rien, elle m'emporte.
Rien, évidemment.
Oui, bien sûr. Elle est tellement efficace. C'est une scie, un produit de l'économie culturelle qui fonctionne et qui vous emporte. En tout cas, moi, elle m'occupe, c'est-à-dire qu'elle... Je m'oublie, je me mets à danser, je peux pas résister, et mon corps prend en charge l'existence comme ça, et c'est un moment de détente et de liberté, parce que c'est, je deviens plus rien, quoi, je deviens elle, je deviens la chanson.
La chance.
Qui peut dire où vont les fleurs du temps qui passe? Qui peut dire où sont les fleurs du temps passé? Quand va la saison jolie, les jeunes filles les ont cueillies. Quand saurons-nous un jour? Quand saurons-nous un jour?
Le musicien américain de folk Pete Seeger s'est inspiré d'une berceuse cosaque dans un roman de l'écrivain soviétique Mikhail Cholokhov pour écrire les premiers vers de la chanson en 1955, Où vont les fleurs, interprétée par Marlène Dietrich en 1962. On change de style de diva là.
Ah oui, non, là c'est Marlène Dietrich qui chante cette chanson sur... la guerre, hein, puisqu'elle va poser des questions, et petit à petit on va comprendre que c'est une histoire de guerre, de soldats, de tombes. Moi je crois que comme remède à la mélancolie et à la tristesse. En tout cas moi c'est un de mes dispositifs pour de survie avant le suicide, c'est de, si je vais pas bien, bah j'écoute. Je vais sans doute aller vers quelque chose qui raconte quelque chose de très grave, de plus grave. Et ça va relativiser ma propre tristesse. Et je vais me dire, moi, qu'est-ce que sont mes petits problèmes face? Et quand c'est chanté par Marlène Dietrich, qui est une actrice géniale, et surtout, moi, ce qui m'intéresse, c'est quelqu'un aussi qui a été une résistante pendant la guerre. Et quand, pour moi, l'art et le politique se conjuguent, c'est toujours, évidemment, une... bouleversant, quoi.
L'art comme vaccin. Je trouve d'ailleurs, en parlant absolument pas de ça, que ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé d'un artiste minimaliste.
One Monday morning, big headline on this tabloid newspaper was "What a load of rubbish," and it was on television. Everything, how outrageous this work was. You can't make art out of bricks. People saying you can't. It's terrible. It's an outrage. Americans understand the way Europeans, the English, don't. Bad publicity is as good as good publicity. It's not whether it's nice. I mean, if they say it's nice and that's all, that's no good. If they go on for hours and hours saying how terrible it is, that's good.
Le peintre et sculpteur américain Karl André, en 2013, à l'occasion de son exposition à la Tate Gallery, expliquant qu'un matin, il voit les gros titres dans les médias qualifiant son œuvre de scandaleuse. C'est nul, on ne fait pas de l'art avec des briques, disent les détracteurs. Et il conclut, ce que les Américains ont compris et que les Européens n'ont pas compris, c'est que la mauvaise publicité est aussi favorable que la bonne publicité. Quand les gens disent pendant des heures, oh là là, mais qu'est-ce que c'est nul? Eh ben, en fait, c'est très bien. Vous avez choisi, Jérôme Bell, ces sculptures qui ne sont pas littéralement sculptées. Comment est-ce qu'on pourrait les décrire et pourquoi elles vous plaisent?
C'est la sculpture minimaliste.
Oui.
C'est...
Diète platitude.
Par exemple, une pièce emblématique, c'est carré de métal, épais de peut-être un centimètre, parfois moins, posé au sol. C'est-à-dire qu'il a réduit à un degré impensable jusqu'à ce qu'il le fasse, la sculpture à des plaques d'acier posées sur le sol. Donc, c'est-à-dire que quand on rentre dans une salle de musée où ces œuvres sont posées, il n'y a rien. Ouais. Encore, décidément, c'est le mot. Cependant, il n'y a rien que parce que il y a ces sculptures minimalistes. On dirait, sinon on dirait la salle est vide. Mais quand il met ces sculptures à peine discernables au début, après on les voit, hein, elles sont pas cachées, elles sont pas...
C'est entre Tetris et le jeu Capla. Vous voyez ou pas l'image? Non, elle ne oui, vous parle absolument pas.
Si, j'ai joué au Capla il y a quelques années, oui, avec mon enfant, oui. Oui, on peut faire... C'est une opération artistique qui pourrait être... j'imagine que des gens étaient très choqués, on pensait que, comme on dit souvent, plein de gens disent dans les musées, mon fils pourrait le faire. Oui, chiche.
Qu'il le fasse.
Ouais.
Bon, merci beaucoup Jérôme Bell d'être venu dans cette émission.
Merci à vous. Chouette.
Dans le cadre du Festival d'automne, votre spectacle avec la troupe de comédiens du théâtre Aura Disabled Theatre joue en ce moment à la Commune à Aubervilliers. Prochaine représentation aujourd'hui à 16h et demain à 19h30 et sera du 3 au 6 novembre à l'espace Pierre Cardin dans le 8e arrondissement à Paris où l'on pourra voir plusieurs de vos créations. Vos autres spectacles sont d'ailleurs visibles à plusieurs endroits. En ce moment, gala au théâtre du Rond-Point jusqu'au 15 octobre. Un spectacle en moins à la Commune en décembre. Cédric Andrieux en tournée entre Saint-Quentin-en-Yvelines, Chelles et Saint-Ouen. Je ne peux pas tout annoncer, mais on trouve la programmation exhaustive sur votre site jérômebell.fr ainsi que le site du Festival d'automne. Chers auditeurs, la programmation musicale Les Remèdes sont sur le site de l'émission. J'espère que vous êtes aussi sereins qu'un piment réconcilié. Je vous retrouve dimanche prochain à 10h en compagnie de l'écrivain Charles Juliet.